Vous écoutez un podcast de l'Académie saison 4 proposé par le Mouvement des entreprises de France. Pour toute question liée à cet enregistrement, rendez-vous sur le site l'académiemedef.fr. Bon podcast à toutes et à tous.
Bonjour à toutes et à tous. En effet, on est très heureux de vous retrouver cet après-midi à l'occasion donc, de ce webinaire consacré à la lutte contre la déforestation et plus particulièrement à la mise en œuvre du règlement relatif à cette déforestation. C'est vrai que la France avait été pionnière dans cette lutte hein, en déployant il y a déjà quelques années une stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée. L'idée de cette lutte a été reprise au niveau européen au travers de ce règlement qui a été adopté au printemps dernier et qui va être progressivement mis en œuvre à partir de 2024. On est très heureux d'organiser ce webinaire en partenariat avec plusieurs participants, intervenants, donc notamment le ministère de la Transition écologique, Madame Reboul, avec qui je vais laisser la parole assez rapidement, dans un premier temps, pour nous présenter le cadre réglementaire. Et puis ensuite, on aura Madame Dastorg, donc de l'Alliance pour la préservation des forêts, qui travaille aussi notamment à accompagner les entreprises dans la mise en œuvre de ce règlement. Et puis on aura deux retours d'expérience de la part de l'entreprise Nestlé, Monsieur Nguyen, et puis de la part de Bénédicte Houdard de la Fédération du papier et du carton, la COPACEL. Mais sans plus attendre, je vais laisser la parole à Madame Reboul, que je vais laisser se présenter et qui va nous faire un rapide tour du cadre réglementaire.
Bonjour, merci Monsieur Sureau, bonjour à tous, merci pour cette invitation à contribuer à ce webinaire. Je vais vous présenter le règlement déforestation de l'Union européenne, donc le RDE, c'est l'acronyme qu'on utilise communément. Donc je suis Marine Reboul, je suis chargée de mission déforestation importée au Commissariat général au développement durable, qui est une direction transversale du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Donc avant de rentrer dans le détail du texte, je voulais rappeler le contexte en fait de la naissance de ce règlement, qui est un contexte d'urgence par rapport à l'état des forêts. On a constaté que la conversion des forêts pour un autre usage et notamment un usage agricole s'accélérait, s'aggravait dans le monde. Depuis 1990, on estime qu'il y a 420 millions d'hectares de forêts qui ont été perdus à cause de cette conversion. Donc, c'est plus que la taille de l'Union européenne. Cette perte continue puisqu'on perd à peu près 10 millions d'hectares de forêts chaque année encore. Mais on constate que ce sont essentiellement les régions tropicales et subtropicales qui sont concernées et que cette conversion est essentiellement due à l'expansion des terres agricoles ou aussi à l'élevage. Donc c'est vraiment une urgence qui a été constatée parce qu'on le sait, les forêts sont à la fois un réservoir de biodiversité et contribuent aussi à la bonne santé climatique, si je peux dire, de notre planète. Et donc, les préserver, c'est aussi lutter contre les effets du changement climatique. Le second constat, c'est que l'Union européenne est responsable en partie de cette déforestation au travers sa consommation et notamment toute la production de biens ou de services qui nécessitent justement des espaces de terres et notamment de forêts. Pour faire face à ce constat, il y a eu déjà des engagements qui ont été pris au niveau international depuis un moment. Hein. Il y a eu les objectifs de développement durable qui avaient mis pour objectif de mettre un terme à la déforestation en 2020. On ne peut que constater l'échec de cet objectif. Il y a eu ensuite la déclaration de New York sur les forêts et puis plus récemment la déclaration de Glasgow sur les forêts qui ont fixé pour objectif de mettre un terme à la déforestation d'ici 2030. C'est avec ce bagage d'engagement international que l'Europe s'est saisie de ce sujet également et dans le cadre de sa stratégie d'ensemble concernant les politiques publiques environnementales qu'on appelle le Green Deal, le pacte vert européen, il y a eu la mention de travailler justement sur cette question de la déforestation et de la dégradation des forêts. Ces éléments ont également été repris dans la stratégie biodiversité européenne, dans la stratégie Farm to Fork aussi, donc de la ferme à la table. Donc on voit que la question de la lutte contre la déforestation et s'est imposée et est devenue prioritaire au niveau européen. Alors on va faire un petit pas sur le côté parce que ces sujets sont déjà aussi bien pris en compte au niveau français. Il y a d'abord le règlement bois de l'Union européenne qui précède finalement le règlement déforestation et qui est appliqué depuis une dizaine d'années en France et qui l'a concerné uniquement la lutte contre le bois illégal. Donc on était sur une question de légalité. Et on va le voir aujourd'hui avec le règlement déforestation, on n'est plus simplement sur la légalité, on est aussi sur la durabilité et les produits zéro déforestation. Il y a également eu la loi sur le devoir de vigilance en 2017 qui demandait à un certain nombre d'entreprises d'évaluer les risques liés à leur activité, donc que ce soit des risques environnementaux ou sociaux. Et donc, dans la partie risque environnemental, il faut prendre en compte les questions de déforestation. Donc, ces éléments ont préparé les acteurs. Et puis, comme l'a indiqué M. Sureau en introduction, il y a eu la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée, la SNDI, qui a été publiée en 2018. Qui a donné une ambition politique et un cap pour les acteurs publics et privés sur ces questions. Alors c'est un cadre stratégique non réglementaire, mais qui fixait une ambition assez forte et qui reprenait les engagements internationaux de mettre un terme à la déforestation importée en France d'ici 2030. Pour aller sur la question du règlement et de donc ce règlement déforestation, ses grands objectifs sont assez simples finalement. C'est de minimiser la contribution de l'Union européenne à la déforestation et à la dégradation des forêts dans le monde, avec deux axes finalement. D'une part, minimiser les risques liés à ces importations et d'autre part, accroître la demande en produits durables et donc en produits zéro déforestation. Donc, ces grands objectifs doivent s'intégrer dans deux logiques, la logique de la légalité et de la durabilité, je l'ai dit, et surtout respecter les règles de l'OMC, c'est-à-dire ne pas être discriminant vis-à-vis de produits qui ont été produits à l'étranger. Et donc, c'est pour ces raisons-là que le règlement s'applique tant sur les produits importés que sur les produits exportés ou mis sur le marché domestique ou européen. Ce que le règlement interdit, c'est la mise sur le marché, la mise à disposition sur le marché ou l'exportation depuis le marché européen de produits ayant contribué à la déforestation ou à la dégradation des forêts après le 31 décembre 2020. Donc, un certain nombre de mots sont soulignés dans ce paragraphe. Je vais y revenir parce qu'ils sont importants. La mise sur le marché désigne la première commercialisation d'un produit sur le marché. Et donc, les acteurs économiques qui font cette mise sur le marché sont des opérateurs. La mise à disposition sur le marché désigne la commercialisation d'un produit qui a déjà été mis sur le marché. Et donc là, on les appelle dans le texte les commerçants. Donc ça désigne des revendeurs, des distributeurs de produits qui sont déjà en circulation sur le marché. La déforestation désigne la conversion d'une forêt pour un usage agricole. Et la dégradation désigne la modification d'un espace, enfin du couvert, pardon, la modification structurelle d'un couvert forestier. Donc par exemple, le passage d'une forêt primaire à une forêt plantée, mais en gestion intensive. Enfin, donc il faut que ces conversions ou ces changements structurels aient eu lieu après le 31 décembre 2020 pour que cela rentre dans le champ de la réglementation. Donc, si on a une forêt qui est devenue un champ de soja en 2019, ce soja pourra être commercialisé sans être soumis au RDUE. En revanche, si cette conversion a eu lieu en 2021, le soja sera soumis au RDUE. Donc, il y a 7 produits qui sont concernés par le règlement et un certain nombre de leurs produits dérivés ou de leurs coproduits. Mais tous les produits dérivés ou tous les coproduits ne sont pas forcément concernés. Il faut se référer à l'annexe 1 du règlement qui liste de manière très claire et très précise l'ensemble des produits qui sont concernés par le règlement avec les codes douaniers référents. Les grands principes de ce texte, c'est tout d'abord que les opérateurs et les commerçants doivent réaliser une diligence raisonnée avant la commercialisation de leurs produits. Donc une diligence raisonnée, c'est une analyse de risque par rapport aux produits qu'ils commercialisent pour s'assurer que leurs produits n'ont pas contribué ni à la déforestation ni à la dégradation. Il faut s'assurer aussi que ces produits sont légaux. Et un point fort de ce règlement, il faut garantir la traçabilité à la parcelle des produits. Donc ça, c'est un élément fort du règlement et un des grands défis de ce règlement. Ce qu'il y a d'important aussi, c'est qu'il y a une transparence qui est exigée de la part de l'ensemble des acteurs le long de la chaîne d'approvisionnement, puisque les différentes informations relatives à la diligence raisonnée devront être transmises d'acteur en acteur afin de s'assurer que le produit est zéro déforestation. Enfin, les opérateurs et les commerçants doivent réaliser une déclaration de diligence raisonnée dans un système d'information européen qui centralisera finalement l'ensemble des déclarations des produits et qui pourra être consulté par les autorités douanières et les autorités compétentes qui s'assureront de la bonne conformité et du respect de cette réglementation. Un autre point important à savoir, c'est que la Commission européenne va réaliser une évaluation des risques par pays et par région de production. Et donc, c'est ce qu'on appelle le benchmark, voilà, dans en bon français, dans les termes régulièrement utilisés, devra être pris en compte dans cette diligence raisonnée. Alors, on peut passer à la diapositive suivante, je vais y revenir. Donc, qu'est-ce que c'est que cette diligence raisonnée? Donc, il y a 3 étapes essentielles. La première, c'est le recueil d'informations concernant le produit qui va être commercialisé. Alors, il y a des informations assez simples et basiques, si je peux dire, qui décrivent le produit, la quantité, d'où il provient. Et puis, il y a cette information assez spécifique concernant la géolocalisation des parcelles qui ont permis la production du produit concerné. Alors, cette géolocalisation, ce sera des coordonnées de géolocalisation, donc avec un point de latitude, un point de longitude pour les parcelles inférieures à 4 hectares. Pour les parcelles supérieures à 4 hectares, il faudra être en mesure de donner différents points de coordonnées afin d'identifier le périmètre de la parcelle ou des parcelles concernées. La deuxième étape qui est essentielle, c'est l'évaluation du risque. Donc, comme je l'ai indiqué, il y a différents paramètres à prendre en compte pour cette évaluation du risque qui sont listés à l'article 10 du règlement. Le premier point important, c'est quel est le niveau de risque associé au pays ou à la région d'origine. Il y a également des éléments sociaux à prendre en compte, notamment la prise en compte des droits de l'homme. Est-ce que les communautés autochtones ont été consultées? Est-ce qu'il n'y a pas des éléments à risque ou des signalements qui auraient été faits par des parties prenantes locales ou externes? Est-ce que la chaîne d'approvisionnement est complexe? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu des mélanges, plusieurs mélanges pour parvenir aux produits concernés? Est-ce que le produit est certifié ou pas? Et puis, donc, le texte liste un certain nombre d'éléments, mais ce n'est pas exhaustif. C'est libre à l'entreprise, ensuite, d'amener des éléments qui lui semble pertinent pour démontrer que le risque est nul ou négligeable. Et ensuite, la troisième étape, Je suis encore sur la diapositive précédente. Si cette deuxième étape n'a pas conclu un risque nul ou négligeable, il faudra que l'entreprise démontre qu'elle a pris des mesures pour maîtriser ces risques et les atténuer si besoin, avec différentes mesures. Ça peut être des enquêtes, une démarche de certification, des audits, etc., pour montrer que ce risque est maîtrisé et qu'il est nul ou négligeable. Si la diligence raisonnée ne conclut pas un risque nul ou négligeable, l'entreprise ne peut pas commercialiser son produit en Europe. Donc, quelles sont les obligations pour les entreprises? Donc, on peut les distinguer sur deux plans. Tout d'abord, les obligations qui incombent aux opérateurs et commerçants. Donc, ils doivent faire cette diligence raisonnée complète. S'ils sont plus en aval dans la chaîne, ils pourront faire référence aux déclarations précédentes mais s'assurer qu'elles sont correctes, et parce qu'ils vont endosser la responsabilité de la déclaration qu'ils vont faire. Donc ensuite, faire une déclaration et transmettre les informations nécessaires aux clients, aux acteurs plus en aval dans la chaîne d'approvisionnement. D'autre part, pour les TPE et PME, il n'y a pas d'exigence de diligence raisonnée ni de déclaration de diligence raisonnée à faire, sauf si ils sont un opérateur PME, donc, qui met pour la première fois un produit sur le marché. Parce que dans ces cas-là, il n'y aura pas forcément de diligence raisonnée qui aura été faite au préalable, et donc ils devront faire cette déclaration. Ils ont aussi l'obligation de conserver l'ensemble des informations et les numéros de déclaration de diligence raisonnée qui leur seront communiqués. Donc, je rappelle à nouveau, il y avait en bas de la slide, que c'est vraiment que les entreprises qui commercialisent les produits listés à l'annexe 1 qui sont concernées. Ça, il faut bien l'avoir en tête tout le temps. Alors, concernant la déclaration de diligence raisonnée, il ne sera pas nécessaire de renseigner dans ce système d'information l'ensemble des informations qui auront été recueillies dans le processus de diligence raisonnée. Il n'y a que quelques informations à renseigner et qui sont listées à l'annexe 2 du règlement. Chaque déclaration générera un numéro unique associé au produit ou au lot qui pourra donc être transmis. Et il sera possible de faire référence à d'autres déclarations, je l'ai dit. Et enfin, par rapport à cette exigence de géolocalisation des parcelles, il sera possible de charger des fichiers dans le système d'information qui listent l'ensemble des parcelles qui ont contribué à la production du produit. Concernant les contrôles, donc il y a une autorité compétente qui doit être désignée au niveau national dans tous les États membres d'ici la fin de l'année 2023. Donc ce sera bientôt au niveau de la France. Et donc qui aura la charge de réaliser les contrôles sur les entreprises. Donc le texte indique des niveaux de contrôle qui devront être réalisés par entreprise en fonction de l'origine des pays et des régions. Donc pour les entreprises qui importeraient des produits en provenance d'un pays à bas risque, donc l'autorité compétente devra contrôler 1% de ces entreprises, etc., 3%, 9% pour les entreprises s'approvisionnant en provenance de régions ou de pays classés à haut risque. Concernant les sanctions, elles vont devoir être définies au niveau législatif, au niveau national. Néanmoins, dans le règlement, il y a déjà beaucoup d'éléments qui sont données et qui devront être repris dans le texte législatif français, notamment que l'amende maximale sera d'au moins 4% du chiffre d'affaires annuel européen des opérateurs. Un rappel du calendrier, donc il y a quelques dates que j'ai indiquées, mais celle qu'il faut absolument retenir, c'est que la mise en application des obligations pour les entreprises démarre donc le 30 décembre 2024, donc il y a un peu plus de 12 mois encore avant la mise en application pour les entreprises. Les TPE-PME ont 6 mois de plus avec une mise en application le 30 juin 2025. À savoir également que le texte prévoit qu'il puisse y avoir des révisions du RDE avec un élargissement de son périmètre. Donc, différentes études d'impact sont prévues qui pourront être assorties d'une proposition législative si cela est pertinent. Donc, un élargissement du périmètre des forêts, parce qu'aujourd'hui, ce sont uniquement les forêts stricto sensu qui sont concernées, les forêts telles que définies par la FAO, mais il pourrait y avoir d'autres écosystèmes concernés, notamment ce qui est défini comme les zones de terre boisée ou d'autres écosystèmes naturels. Il pourrait y avoir d'autres produits, d'autres acteurs également, potentiellement des acteurs financiers. Et puis, le texte prévoit que tous les 5 ans, le règlement soit actualisé, donc avec possiblement d'autres modifications de périmètre ou d'ambition. Je serais ravie de pouvoir répondre à quelques questions
Alors,
si vous en avez.
du coup, justement, il y en a quelques-unes dans le chat. Alors, la première, ça concernait justement le benchmark, hein, l'établissement du benchmark. Beaucoup d'entreprises ou de participants voulaient savoir quand est-ce que il devait être publié. Donc, je comprends que c'est au plus tard fin 2024, hein, c'est ça ce
Oui,
benchmark.
tout à fait.
En attendant, j'imagine que ça peut soulever quand même des questions de la part d'entreprises qui à la fois vont attendre ce benchmark et en même temps vont devoir mettre en œuvre ce règlement. Quels sont les conseils là qu'on peut donner éventuellement à ces entreprises qui sont concernées et qui attendent en parallèle ce benchmark?
Oui, effectivement. Alors, dans cette attente, il est conseillé de partir du principe que l'ensemble des régions et des pays de production sont classés en risque standard. Voilà, donc ce qui implique la réalisation d'une diligence raisonnée complète avec la prise en compte de l'ensemble des critères indiqués par le règlement.
D'accord. D'autres questions? La traçabilité, est-ce qu'elle doit se faire lot par lot de produits, ou comment ça se passe plus précisément?
On parle souvent de shipment, donc ça peut effectivement être par lot. Donc c'est pas évidemment pas graine par graine. Hein, donc après avoir le format concerné, par exemple pour le soja, ça pourrait être potentiellement tout un cargo, puisque le cargo, enfin le soja arrive en France par cargo, et donc là ça a du sens que ça puisse être fait à l'échelle du cargo.
Vous avez dit que tous les acteurs potentiellement de la chaîne étaient concernés. J'imagine que y compris les utilisateurs finaux et qui soit vendent à des clients consommateurs, soit vendent à des professionnels avec une obligation de traçabilité tout au long de la chaîne. Hein, c'est bien ça.
Oui, tout à fait.
C'est la question des mélanges. Donc là aussi, hein, on peut supposer que les acteurs qui mélangent aient besoin de tracer tout au long de la chaîne jusqu'au consommateur final, c'est ça aussi?
Oui, alors, il est possible d'avoir dans un même lot des produits qui proviennent de différentes parcelles. Ça, c'est pas interdit, mais il faut que l'ensemble de ces parcelles soit zéro déforestation, donc n'est pas été soumis à une conversion ou une dégradation. Sinon, il suffit qu'une de ces parcelles ait été victime, si je peux dire, de déforestation, l'ensemble du lot ne pourra pas être commercialisé et sera interdit.
D'accord. Mais dans le cas d'un produit transformé, on est bien d'accord que le produit transformé est lui-même concerné. J'imagine à une plaque de cacao, alors peut-être que M. le Destiné tout à l'heure en parlera, mais voilà, c'est pas que le produit brut, hein, c'est bien aussi les produits transformés issus de ces produits bruts.
Tout à fait. Et donc c'est vraiment la liste de produits qui est dans l'annexe 1 qu'il faut regarder, parce qu'effectivement, il y a
D'accord.
des produits transformés qui peuvent y être et d'autres qui n'y sont pas forcément.
D'accord. D'autres questions? On nous demande s'il y aura une plateforme pour transmettre les informations tout au long de la chaîne aval. Est-ce qu'il y aura des outils qui seront mis à disposition? Pas. Alors peut-être que là aussi, Madame Destorg en parlera après, mais.
Oui, tout à fait. Alors, c'est le système d'information dont je parlais, hein, qui centralisera les déclarations de diligence raisonnée. et par laquelle transiteront ces déclarations et pourront être transmises d'acteur en acteur. Voilà, après, libre aux entreprises de pouvoir aussi se communiquer entre elles d'autres informations qui seraient en supplément des éléments qu'il y a dans la déclaration de diligence raisonnée.
On est bien d'accord que le règlement s'applique également aux forêts européennes.
Tout à fait.
Bon, merci beaucoup, Madame Reboul.
Vous en
éventuellement,
prie.
je vous laisse peut-être regarder dans le chat parce que je n'ai pas pris forcément toutes les questions, il y en a quand même pas mal, mais je ne voulais pas prendre trop de retard et peut-être que Madame Dastor va pouvoir éventuellement répondre elle-même à d'autres questions dans sa présentation. Donc, je vais lui laisser la parole et puis laisser présenter aussi l'Alliance pour la préservation des forêts. Laure.
Oui, bonjour à tous. Merci au MEDEF pour cette opportunité. Donc, je vais vous présenter donc l'Alliance pour la préservation des forêts, qui est un collectif d'entreprises engagées pour des matières premières durables, traçables et respectueuses des écosystèmes. Notre principale mission, justement, c'est de rallier au sein de cette coalition tous les acteurs des filières qui vivent de la forêt ou dont l'activité a un impact sur elle, à la fois pour inventer et soutenir des modes de gestion et de culture assurant durablement sa préservation. Alors aujourd'hui, l'Alliance réunit plus de 35 membres, à la fois des grandes entreprises comme Nestlé ou Ferrero, ou encore de plus petits acteurs. Et l'Alliance est vraiment ouverte à l'ensemble des entreprises de toute taille et de tout secteur d'activité. Voici quelques dates clés pour, sur le parcours de l'Alliance. Donc, nous avons été fondés donc il y a 10 ans, en 2013. L'Alliance à l'époque s'appelait donc l'Alliance française pour une huile de palme durable. Donc, nous avons énormément contribué à la transformation de la filière de l'huile de palme. En 2015, 96% des approvisionnements de nos membres en huile de palme étaient certifiés, dont 73% tracés jusqu'aux plantations. En parallèle, on a vu qu'effectivement le sujet de la forêt devenait un sujet montant avec la signature notamment de la déclaration de New York sur les forêts. En parallèle, l'Alliance a continué à s'investir dans la transformation de la filière de l'huile de palme avec le renforcement des principes et critères du système de certification, la RSPO. Et on a vu de grandes avancées technologiques comme l'apparition de surveillance d'outils de surveillance satellitaire comme Starlink. Et en parallèle, les ONG ont commencé à questionner les entreprises sur d'autres matières premières à risque de déforestation comme le soja qui est le premier contributeur de déforestation. Et donc en 2018, l'Alliance a décidé donc d'élargir son périmètre à d'autres matières premières à risque de déforestation et donc l'Alliance est devenue donc l'Alliance pour la préservation des forêts. Dans la même année, donc en 2018, est publiée donc la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée. Donc la France est le premier pays européen à se doter d'une stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée à laquelle nous avons largement contribué. Et en parallèle, donc ces 5 dernières années, nous avons aussi contribué donc à cette élaboration de ce règlement européen pour des produits zéro déforestation, donc qui est entré en vigueur en juin dernier. Et en parallèle, donc la France a lancé donc une planification écologique avec des volets donc mieux se nourrir, mieux consommer et qui intègre aussi des questions de lutte contre la déforestation. Alors pourquoi rejoindre l'Alliance pour la préservation des forêts? Tout d'abord, pour lutter contre la déforestation importée, donc via des approvisionnements responsables. Comme l'a rappelé Marine, la déforestation, c'est 420 millions d'hectares de forêts qui ont disparu donc ces 30 dernières années. C'est absolument énorme. C'est l'équivalent de la superficie de l'Union européenne. La déforestation a à la fois un impact sur le climat, puisque c'est l'une des principales causes du réchauffement climatique en raison de ses émissions de gaz à effet de serre. Et la déforestation a à la fois un impact sur la biodiversité, puisque les forêts y regroupent plus de 80% de la biodiversité mondiale. Et donc la France et quelques pays européens se sont mobilisés et donc ont poussé l'Union européenne à élaborer une réglementation ambitieuse et contraignante. Et donc la deuxième raison de nous rejoindre, c'est justement pour se mettre en conformité avec ce règlement européen et notamment aussi le devoir de vigilance puisqu'il y a tout un cadre législatif qui est en train de se mettre en place qui va au-delà juste de ce seul règlement pour des produits zéro déforestation. Et donc, comme l'a rappelé Marine, les principales matières premières et dérivées concernées par ce règlement, elles sont au nombre de 7. Il y a donc le café, le cacao, la viande bovine, l'huile de palme, le soja, le bois et le caoutchouc, ainsi que certains de leurs produits dérivés comme le chocolat, le cuir, les meubles, les papiers imprimés ou encore le charbon de bois. Alors, comment est-ce que nous pouvons vous accompagner sur cette thématique? Nous avons quatre leviers d'action. Le premier, c'est d'accompagner les entreprises dans la transformation de leur chaîne d'approvisionnement en vue d'atteindre l'objectif zéro déforestation. Et pour cela, l'Alliance a développé un programme d'achat responsable. Le deuxième levier d'action, ça va être d'expérimenter, de soutenir des projets de recherche et d'innovation dans les territoires. Et nous avons notamment donc lancé une expérimentation unique au monde, qui est un projet d'agroforesterie dans les plantations d'huile de palme à Bornéo, dans la Kinabatangan, en partenariat avec le CIRAD. Le troisième levier d'action, ça va être d'agir sur les politiques publiques, à la fois au niveau national et au niveau européen, pour s'assurer que les matières premières importées en Europe ne soient pas issues de la déforestation. Et enfin, le dernier levier, ça va être d'informer et d'engager le consommateur dans la lutte contre la déforestation importée. Notre programme d'achat responsable va vous permettre de progresser sur cette thématique. Donc, nous avons démarré ce programme d'achat responsable donc en 2020 avec l'élaboration d'un référentiel qui recense les critères et les indicateurs nécessaires à la prise en compte des enjeux de lutte contre la déforestation et de conversion des écosystèmes. De ce référentiel, nous avons développé un outil d'auto-évaluation pour évaluer justement votre maturité sur cette thématique et obtenir un plan d'action. Et ensuite, donc l'année dernière, nous avons lancé donc une enquête annuelle pour mesurer et progresser ensemble. L'outil d'auto-évaluation que nous avons développé va vous permettre d'évaluer votre niveau de maturité sur cette question et d'obtenir un plan d'action. Cet outil va vous permettre de connaître votre niveau de maturité. Donc, si vous êtes, par exemple, à un niveau débutant, intermédiaire ou mature, à la fois sur l'ensemble de votre programme, mais aussi par volume, au niveau de la gouvernance de votre plan d'action et de la communication. Donc, par exemple, au niveau du plan d'action, on va regarder si vous avez mis en place de la certification, de la traçabilité, de la vérification de vos engagements, des actions de transformation. Au niveau de la communication, on va regarder justement comment est-ce que vous interagissez avec les parties prenantes externes, est-ce que vous publiez donc des rapports sur ces questions-là. Et donc, en termes de livrables, l'outil va vous donner donc votre profil d'entreprise, votre niveau de risque, puisque parfois les entreprises ont tendance à beaucoup communiquer alors que leur plan d'action n'est pas suffisamment robuste. Et l'outil va justement générer automatiquement un plan d'action. Donc, si vous êtes à un niveau débutant, donc ça va vous donner les principales actions par lesquelles il faut démarrer. Et si vous êtes à un niveau plutôt mature, ça va aussi vous donner un aperçu sur, par exemple, où sont les trous dans la raquette. Ces travaux donc sont menés en concertation et en synergie avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Donc, nous travaillons à la fois avec les ONG, la communauté scientifique, les pouvoirs publics, les acteurs financiers, les instances internationales et internationales pour travailler justement en synergie et éviter de dupliquer, par exemple, des outils ou des méthodologies existantes. Alors, l'Alliance pour la préservation des forêts est membre de plusieurs organisations. C'est l'un des rares collectifs du secteur privé à être membre de l'UICN, donc l'Union internationale pour la conservation de la nature. Nous participons également au niveau des groupes de travail mis en place par la Commission européenne sur ce règlement. Nous faisons partie du comité de suivi des parties prenantes de la SNDI. Nous siégeons aussi au comité scientifique et technique forêt de l'AFD. Nous sommes également membres de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. Et nous avons un partenariat historique avec le CIRAD. Nous sommes partenaires aussi de Tropical Forest Alliance, EPE et Act for Nature. Et nous sommes aussi partenaires engagés pour la nature. Rapide retour, les actions que nous avons pu mener au premier semestre 2023. Donc, l'Alliance était notamment présente au One Forest Summit qui s'est tenu au mois de mars au Gabon, donc sur invitation du président de la République. Nous étions également présents au Salon international de l'agriculture pour présenter donc ce projet Trails, qui est une expérimentation unique au monde, qui est un projet d'agroforesterie dans les plantations d'huile de palme à Bornéo. Nous avons aussi organisé un certain nombre de webinaires et d'événements et nous rencontrons aussi régulièrement les pouvoirs publics. Voilà, bah écoutez, je merci à vous, merci de votre attention et puis je me tiens à disposition pour répondre à vos questions.
Merci beaucoup Laure. Peut-être juste une question, donc tous les outils que tu as présentés sont disponibles uniquement pour les membres de l'Alliance de préservation des forêts ou il y a une partie en accès libre?
Alors, le référentiel est en accès libre. Vous pouvez le télécharger sur le site du ministère déforestationimportée.gouv. Et en revanche, l'outil d'auto-évaluation est réservé à nos membres.
Merci beaucoup pour ces quelques présentation là, concernant quelques premiers outils. Donc voilà, n'hésitez pas en effet à aller sur cette plateforme du ministère de l'Environnement. Et je vais laisser la parole à Monsieur Nguyen pour le retour d'expérience de Nestlé sur cette lutte contre la déforestation.
Bonjour à tous et à toutes. Merci pour l'opportunité donnée de présenter ce que nous faisons chez Nestlé. Donc, je suis Yannick Nguyen, je suis au département de développement durable de Nestlé. Et ce qu'on voulait partager avec vous, c'est les quelques enseignements que nous avons depuis 10 ans, parce que ça fait 10 ans qu'on travaille sur ce sujet de la lutte contre la déforestation, donc dès 2010. Alors, je ne vais pas vous donner toutes les dates en tant que telles, mais ce qui est important de comprendre, c'est que on s'y est attelé très tôt, qu'on a été une des premières entreprises à se fixer des objectifs justement sur la non-déforestation de nos approvisionnements, et que ça a été un long chemin d'apprentissage, mais aussi d'innovation, parce que les outils n'existaient pas à l'époque. En fait, au moment où on s'est intéressé vraiment dans le détail sur ce sujet, pas beaucoup d'outils existaient. Et donc, ce qu'on a appris concrètement, le plus important, c'est qu'il n'y a pas de solution unique, malheureusement. En fait, on n'a pas d'outils uniques qui permettent de lutter contre la déforestation, mais plutôt en fait ce qu'on appelle une boîte à outils qu'il faudra en fait déployer en fonction en fait de la matière première, de sa zone géographique, et en fait ces outils, donc c'est plutôt ils sont au nombre de 4, et j'irai plus en détail de chacun d'entre eux par la suite. Donc, ce qu'il faut retenir, malheureusement, il n'y a pas de solution magique, il n'y a pas une solution qui marche pour tout, mais vraiment une adaptation cas par cas d'une boîte à outils. Et donc, le premier outil, c'est la cartographie. On a beaucoup parlé tout à l'heure, effectivement, de traçabilité, ce qui est un point clé. Et donc, par exemple, vous avez à l'écran, là, vous faites une cartographie high level de notre chaîne d'approvisionnement. Alors là, vous avez les Amériques, mais en fait, on l'a fait sur chacun des continents. C'est que sur chacun des continents, nous avons fait un mapping des régions où nous approvisionnions de nos principales matières premières. Alors, ça a l'air simple comme ça, mais ça a pris quelques temps quand même à mapper tout ça. Et donc, sur chacun de nos continents, on a la vision de quel type de matières premières on achète et dans quelle région, mais de manière plutôt macro. Et lorsque l'on va en fait plus dans le détail, donc c'est-à-dire si on va à une traçabilité plus précise, et ben c'est là où on s'aperçoit qu'effectivement, en fait, dès qu'on rentre dans le détail du terrain, si on va aller jusqu'au producteur, au groupement de producteurs, et ben la réalité est beaucoup plus complexe. Et donc c'est ce que je vous illustre là sur la diapositive, les deux types de, par exemple, de chaînes d'approvisionnement qui sont soit liées à l'huile de palme, vous verrez le nombre d'intermédiaires qui est très important, qui est très complexe, ou la même chose sur le cacao, où vous avez beaucoup d'intermédiaires entre l'agriculteur lui-même et les exportateurs. Donc tout ça pour vous dire que du coup, on doit s'appuyer sur une collaboration très rapprochée avec nos fournisseurs, parce que compte tenu de la complexité de tout de tous ces approvisionnements, donc il y a le premier point d'appui, c'est les fournisseurs, et donc du coup, avec un outil assez classique qui sont des cahiers des charges ou des standards d'achat sur lesquels, donc ça c'est à gauche là, vous l'avez à l'écran, sur lequel on s'appuie pour demander aux fournisseurs un certain nombre d'engagements. Et puis surtout, en fait, ce que l'on a développé au fur et à mesure des années, c'est des collaborations sur le terrain avec des spécialistes sur le terrain pour chacune des matières premières, et c'est ça qui est très important, c'est que chaque matière première étant spécifique, on s'appuie sur le spécialiste de cette matière première-là sur le terrain, et qui nous permettent du coup en fait de travailler sur le terrain cette traçabilité et de remonter les filières le plus loin possible jusqu'à l'origine. Alors par exemple, vous avez Proforest qu'on utilise sur le soja, Rainforest Alliance sur le café ou le cacao, leur swarm sur l'huile de palme. Mais voilà, ce qui est important, c'est de s'appuyer sur des gens qui connaissent le terrain et qui connaissent les filières en elles-mêmes pour remonter cette traçabilité. Et donc, du coup, une fois que la traçabilité est un peu plus précise, le premier outil qui est mis à disposition, c'est le croisement, en fait, de ces zones d'approvisionnement avec les zones à risque de déforestation. Il y a un certain nombre soit d'outils, soit de bibliographies. Alors par exemple, tout à gauche, là, vous avez WWF qui émet à jour assez régulièrement en fait les zones, les fronts de déforestation à risque. Vous avez sinon sur le terrain des outils beaucoup plus précis et pointus que vous pouvez utiliser pour croiser en fait vos approvisionnements, vos zones d'approvisionnement avec des potentielles zones à risque. Et effectivement, en fait, si vos approvisionnements ne sont pas dans zone à risque, ben là vous avez déjà donc cette première vérification. Et en revanche, là, si vous avez des zones d'approvisionnement qui sont liées à des zones à risque, c'est là où vous devez aller plus loin en termes de vérification et de conformité. Et donc c'est là où du coup bah, deux outils sont vraiment déployés sur le terrain, bah, des outils classiques que vous connaissez tous, qui sont la vérification sur le terrain des audits et des vérifications concrètes dans les différentes parcelles ou chez les agriculteurs. Et ça, on s'appuie bien évidemment alors, soit sur des audits fournisseurs, soit sur des organismes de certification quand on utilise la certification dans nos approvisionnements, soit bah, par les partenaires terrain que l'on aura sollicités pour les différents types de matières premières. Donc je vous ai mis par exemple Proforest qu'on utilise beaucoup notamment sur la partie soja ou sucre. Et donc le point c'est qu'à l'époque bah, il y a soit des outils qui existent déjà, des référentiels, etc. Donc c'est facile de s'appuyer là-dessus, mais on a dû développer aussi un certain nombre d'outils. Donc on a appuyé le développement de ces 12 outils-là, par exemple HCS qui est une évaluation en fait de l'état des forêts, ou HCV qui est plutôt une mesure d'impact sur la biodiversité. Tout ça pour vous dire que, bah, au fur et à mesure en fait se sont développés des outils que l'on peut aujourd'hui sur lesquels on peut s'appuyer aujourd'hui et qui sont devenus quasiment standards en fait dans les évaluations. L'autre outil très important et qui avait vraiment été un comment dire un, on appelle ça un game changer, mais en gros qui a révolutionné en fait cette la déforestation, c'est l'utilisation de la télésurveillance et l'analyse des satellites, des images de la satellite pour mesurer quasiment en temps réel en fait. Et donc on a lancé ça en 2016, hein, c'était un prototype avec bah, Airbus et Earthworm. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que bah, du coup on a rassemblé les connaissances techniques d'Airbus et les connaissances terrain de Earthworm avec nos besoins à nous en fait sur la lutte contre la déforestation pour tester cette nouvelle solution. Et ça a été vraiment une révolution, puisque en fait on l'a testé en 2016 et le marché français a été le premier à tester cet approvisionnement de l'huile de palme. Mais ce qui a vraiment changé, c'est qu'on a obtenu aujourd'hui une vérification quasi en continu en fait des zones d'approvisionnement. Et aujourd'hui, par exemple, 100% de nos approvisionnements d'huile de palme sont sous surveillance satellitaire. Ça permet d'avoir un historique, donc du coup on mesure l'évolution en fait de la dégradation des zones d'approvisionnement. Donc cet historique permet aussi d'avoir cette évolution dans le temps. On dit aussi souvent que bah, une photo ça parle beaucoup plus que des images. Et donc du coup lorsqu'avant il fallait justifier qu'il y avait une déforestation auprès d'un fournisseur, bah, le fait de nous montrer aujourd'hui la photo, bah, on s'attaque tout de suite en fait à la solution en elle-même et plus à discuter de la preuve ou pas de la déforestation. Et enfin, ce qui est important, c'est que bah, cet outil technologique est juste un accélérateur qui ne résout pas tout, mais qui permet juste en fait de concentrer en fait l'envoi d'équipes terrain dans les zones qui sont les plus concernées. Et donc, c'est une optimisation de l'utilisation de vos ressources terrain. Et aujourd'hui, elle est largement utilisée par la profession, par exemple sur l'huile de palme. Et on est en train d'étendre en fait cet outil à d'autres types de matières premières comme le café ou le cacao. Ce qu'on voulait partager aussi, c'est que au-delà de ces outils qui ont été développés, de la connaissance que tout le monde aujourd'hui a de cette déforestation, un point clé, c'est ce qu'on a appris, c'est que c'est la transparence qui accélère la transformation, c'est-à-dire le fait en fait de mettre à disposition au public et aux ONG à la fois en fait nos chaînes d'approvisionnement. Donc c'est ce que vous avez à gauche, on a sur notre site bah, du coup ce qu'on appelle la disclosure de en fait de nos chaînes d'approvisionnement d'huile de palme, mais aussi par exemple on met à disposition en fait les alertes de déforestation que l'on a recensées notamment grâce à l'outil Starling que je vous ai évoqué tout à l'heure, et surtout en fait les plans d'action qui sont en cours. Et donc du coup ça se permet aussi en fait de rendre compte de ce qui est en cours sur le terrain. Et cette transparence permet bah, du coup d'aller plus loin et de pousser au changement, d'aller plus vite. Et l'autre transparence que l'on essaye de mettre à disposition, c'est nos résultats annuels. Donc chaque année, en fait, on met dans notre rapport développement durable les résultats en fait de la lutte contre la déforestation, de nos approvisionnements, à quel niveau on en est. Et donc ça, le fait de s'engager chaque année à le mettre à disposition, bah, nous oblige à bah, du coup à maintenir cet engagement et toujours aller plus loin avec les fournisseurs. Le deuxième point qu'on voulait partager avec vous, c'est que jusqu'à présent, on s'est beaucoup focalisé sur la lutte technique contre la déforestation. Mais ce que l'on a en tête aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas se soucier seulement juste des forêts, mais aussi des gens qui habitent dans ces forêts, parce que les populations indigènes, et notamment celles qui habitent dans les forêts, sont les meilleurs ambassadeurs et protecteurs de ces forêts. Et donc c'est pour ça que la composante, ce que mentionnait tout à l'heure Marine, la composante droit humain et notamment droit de propriété, droit d'accès aux terres est un point clé aujourd'hui dans notre lutte contre la déforestation. Et le deuxième point aussi, c'est que la lutte contre la déforestation doit aussi impliquer en fait le travail des communautés locales qui sont dans les zones où on travaille. Alors ça semble facile à dire, mais et évident, mais le développement local en fait de la lutte contre la déforestation ne passe qu'avec en fait un lien avec ces populations locales, parce que c'est elles qui vont le protéger au mieux les forêts environnantes lorsqu'elles auront eu les outils et l'appui pour le faire. Troisième point qu'on voulait partager aussi, c'est que jusqu'à présent, en fait, on s'est beaucoup, toutes les entreprises se sont vraiment focalisées sur une approche filière de cette lutte contre la déforestation. C'est-à-dire que, bah, du coup, nous, Nestlé, sur le cacao, on essayait, du coup, de lutter contre la déforestation du cacao de là où on approvisionnait. Mais aujourd'hui, en fait, la réalité, c'est que il faut une approche multifilière au niveau d'un territoire, c'est-à-dire qu'il faut rassembler autour d'un territoire donné d'approvisionnement toutes les filières qui sont concernées. C'est les citations que je vous ai mises là, c'est bah, on peut faire tout pour s'assurer une non-déforestation liée à nos approvisionnements de cacao, par exemple. Si par contre, en fait, bah, un fournisseur de caoutchouc qui s'approvisionne sur le même territoire, bah, du coup, déforeste, en fait, tout ce qu'on aura fait sera vain. Donc, c'est vraiment une nouvelle approche qu'il faut avoir, cette approche territoriale, multipartite. C'est plus facile à dire qu'à faire, parce que, effectivement, c'est une nouvelle façon de travailler, de collaborer. C'est ce qu'on essaye de pousser de plus en plus en termes de pratiques sur le terrain. Et puis, le dernier point qu'on voulait vous partager, c'est eh ben, ce besoin d'accélérer, ce que vous avez souligné tout à l'heure, Marine et Laure, c'est que on ne peut plus en fait agir seul, chaque entreprise seule par elle-même, et que en fait l'accélération et ce besoin d'accélération qui est de plus en plus important aujourd'hui ne pourra être vraiment très concret que s'il y a une coalition, c'est-à-dire une collaboration soit entre différents acteurs économiques, mais aussi en fait entre des acteurs économiques et des acteurs gouvernementaux. Et donc ça ne passe que par bah, des coalitions, la mise en place de coalitions. Par exemple, vous avez le Good Consumer Forum pour le soja, mais aussi par exemple le CFI Cocoa Forest Initiative qui rassemble le gouvernement ivoirien, mais aussi les principaux fournisseurs de cacao sur le terrain. Donc c'est par cette coalition que l'on ne pourra que accélérer en fait cette lutte contre la déforestation. Et ça, donc, c'est des coalitions qui peuvent être internationales, donc ce que vous avez cité tout à l'heure, mais c'est aussi très local, chacun dans chacun des pays. Donc, par exemple, effectivement, nous faisons partie de l'Alliance pour la préservation des forêts, et c'est une coalition qui permet en fait d'aller plus vite pour répondre à ces questions-là. Ou vous citez aussi en fait cette sorte de coalition qui est l'Initiative française pour un cacao durable. Vous avez autour de la table en fait à la fois les acteurs publics, mais à la fois les acteurs privés, distributeurs, mais ONG, pour lutter contre la déforestation, mais pour les approvisionnements durables de cacao. Voilà pour vous donner un rapide tour de ce que l'on a appris. Et puis bon, pour finir sur le sujet très concret du règlement déforestation, en fait, bah, fort de ce que on s'est dit et de notre expérience depuis 10 ans sur le terrain, On est plutôt en bonne position pour arriver à répondre à ce règlement-là. En revanche, en fait, il existe des ajustements pratiques et très concrets à mettre en place. Et c'est pour ça qu'il y a un groupe de travail au niveau international qui a été mis en place chez nous, Nestlé, pour vous illustrer très concrètement. Vous voyez, donc, qui rassemble à la fois des spécialistes des achats, des spécialistes de la supply chain pour la traçabilité, par exemple, des spécialistes du sustainable sourcing quand on achète nos approvisionnements en nous-mêmes, par nous-mêmes, de cacao, de café. Et surtout, en fait, il y a une composante qu'on n'avait peut-être pas identifiée jusque-là, c'est que c'est un vrai défi technologique et IT pour gérer la masse d'informations qui va découler, en fait, de ce règlement. Et donc, du coup, la transmission de ces informations à nos clients, mais aussi la réception de ces informations de la part de nos fournisseurs. Et surtout, en fait, le défi technologique qui arrive derrière, c'est comment gérer le flux de ces informations tout au long, en fait, de nos flux commerciaux, on va dire, day to day, quoi. C'est-à-dire comment intégrer, du coup, cette information-là à nos flux aujourd'hui commerciaux classiques. Et là, ça va être un vrai challenge. Alors, on a 18 mois devant nous. Ça va pas être facile, on est plutôt confiant de pouvoir y aller.
Merci beaucoup pour cette présentation assez exemplaire de ce qui est fait là depuis quand même déjà pas mal d'années sur un secteur voilà, qui historiquement s'est préoccupé notamment à travers les enjeux d'huile de palme. Donc voilà, donc on voit le chemin parcouru, on voit les défis que vous avez essayé de relever et qui vous restent encore à relever alors même que voilà, vous avez cette historique-là et sans doute une structure qui voilà, vous permet pas mal de choses. Et on voulait terminer ce webinaire par un autre secteur, celui du papier carton. Et donc, merci à Bénédicte Oudard de nous expliquer un petit peu où en est cette industrie papetière par rapport à ce règlement et peut-être aux quelques difficultés qu'il peut soulever pour vous. Voilà, Bénédicte, à toi.
Merci Sébastien, merci au MEDEF pour cette invitation. Moi, je vais vous parler un petit peu des nombreuses questions qui se posent dans notre industrie du fait d'un process en continu et des nombreux mélanges que l'on réalise pour produire du papier. Donc, bien sûr, on soutient très largement la lutte contre la déforestation. Et on se bat contre d'éventuels produits papetiers qui pourraient contribuer à la déforestation. Ça crée un déficit, enfin préjudice d'image pour notre industrie. Et ça fait déjà des années qu'on a, enfin on a déjà, comme disait Marine tout à l'heure, le règlement bois de l'Union européenne, donc qui travailler sur la légalité du bois qui permettait déjà d'aller dans ce sens-là. On a également plus de 80% de nos produits qui sont certifiés FSC, PEFC, qui montrent qu'il y a déjà un engagement de la profession vers des produits qui respectent l'environnement. Mais ce nouveau règlement nous impose un principe de traçabilité qui est nouveau pour nous, puisque on nous demande une traçabilité complète des fibres qui va de la produit des forêts au produit fini, donc jusqu'au papier de bureau, aux emballages, au papier hygiénique, aux livres, aux magazines, où tout le long de la chaîne de valeur, il va falloir qu'on assure le suivi des fibres. Et vous avez là petite photo qui montre en fait l'enchevêtrement des fibres. Et lorsqu'on produit du papier, eh bien on a pour habitude de mélanger différents apports de bois. Et donc ça va multiplier la quantité de données à gérer tout au long de la chaîne de valeur. Donc ça, c'est Un schéma simplifié, juste pour vous montrer assez rapidement, donc sur le rectangle en bas, que pour produire du papier, on va récupérer d'une part des rondins de bois qui vont arriver sur notre parc à bois, mais on va également récupérer des connexes de scierie, donc toute la partie non noble du bois qui n'est pas valorisable. On va récupérer, nous, des plaquettes forestières, donc c'est la photo. Vous avez là, avec la main, où on a des mélanges de morceaux de bois qui eux-mêmes peuvent provenir de différentes coupes. On va stocker après sur un grand stockage de plaquettes et ça va rentrer dans le process de production, process en continu, où on va cuire ces copeaux de bois pour en récupérer d'une part la cellulose qui va nous permettre de faire la pâte à papier puis le papier, d'autre part la lignine qu'on va valoriser énergétiquement. Et donc à partir de ça, on va produire des balles de pâte à papier, la petite photo en bas à droite, et si on va sur une usine, sur une machine à papier, on va produire des bobines de papier. Juste pour montrer un peu plus l'étendue d'un parc à bois, d'un site papetier, on n'a pas forcément une gestion des rondins de bois qui arrivent sur ce parc en first in, first out ou last in, first out. Et donc il va falloir qu'on intègre toutes les coupes qui vont potentiellement rentrer dans la fabrication pour n'oublier aucune coupe pour que notre produit soit conforme au règlement RDUE. Et vous voyez également l'importance du parc de stockage des copeaux de bois. Et donc ça peut être associé à plusieurs centaines, voire milliers de coupes de bois différentes pour produire au final les balles de pâte à papier. Donc si on passe sur la diapo suivante, on a commencé à réfléchir et pour évaluer quelques ordres de grandeur des données qu'il va falloir gérer pour mettre en œuvre ce règlement. Donc du fait de notre process de fabrication, il n'est pas possible d'associer une balle de pâte à papier à une parcelle unique. Et donc il va falloir, lorsqu'on produit une balle de pâte, identifier toutes les parcelles qui vont rentrer dans la composition de cette balle de pâte ou plus loin dans la chaîne de production de la bobine de papier. Et compte tenu du temps variable que la fibre qui va rentrer dans le processus de fabrication du parc à bois jusqu'au produit alors intermédiaire, je parle même pas du produit fini, ça peut prendre à peu près 1 an. Alors ça peut prendre 3 mois, 15 jours, comme ça peut prendre 1 an. Et donc pour être conforme au règlement, il va falloir qu'on identifie toutes les parcelles qui ont permis d'approvisionner ce parc à bois au cours de la dernière année écoulée. Et donc à partir des calculs qu'on a pu faire pour une balle de pâte, donc 250 kilos, c'était un petit cube parmi le tas que vous avez vu sur la photo tout à l'heure, peuvent être potentiellement associés plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de parcelles. Et après, lorsqu'on va produire du papier, on va mélanger différentes sortes de pâtes, bah, pour conférer des caractéristiques particulières au papier. Et donc là, on va accroître la combinatoire et on va se retrouver avec encore plus de parcelles et donc de données à gérer. Alors, comment gérer toutes ces données? Nous, on est très inquiets par la masse considérable de données qu'il va falloir gérer, ben, du fait de notre processus de production, des mélanges de matières premières, et on voit que ça va se traduire par une très très lourde charge administrative. Donc, on a parlé déjà tout à l'heure donc du système d'information où seront rentrées les données qui permettront d'établir les déclarations de diligence raisonnées. Donc on en a vu un exemple, enfin le début du fonctionnement au cours du mois de juillet, et on estime qu'il faut à peu près 3 minutes de saisie par déclaration de diligence raisonnée. Et pour un site papetier où la production annuelle peut couvrir 400 000 coupes différentes de bois, et c'est un exemple moyen, hein, c'est pas un exemple surdimensionné, ça représente donc 400 000 DDR à rentrée, 7 700 par semaine, et donc ça représente une charge administrative équivalente à 12 équivalents temps plein. Nous, on a identifié beaucoup de points en suspens et de difficultés. La première, c'est le fonctionnement du système d'information qui doit être précisé par un acte délégué que l'on attend. Et nous, on est très demandeur d'une interface qui permettra de relier le système d'information de la Commission européenne avec les systèmes informatiques des entreprises pour qu'on ne soit pas obligé de ressaisir toutes les données. Les autres points, on en a déjà parlé tout à l'heure. On a également les informations qui seront disponibles via le système d'information de l'Union européenne pour l'opérateur en aval, puisqu'il va falloir suivre ces informations tout le long de la chaîne de valeur. Est-ce qu'on aura accès uniquement à la géolocalisation, aux espèces d'arbres, aux quantités, aux fournisseurs? Donc, quels seront les éléments qui seront accessibles via ce système d'information et quels seront ceux qui devront être obtenus après par des échanges B2B? Et en termes de difficultés, eh bien, c'est la masse importante des données qu'il va falloir traiter. La gestion également des obligations distinctes entre les fournisseurs non PME et PME. La date de mise en œuvre également différente, on l'a déjà évoqué, enfin, ça a été évoqué tout à l'heure dans les questions. Et enfin, le risque juridique, si on a une parcelle qui est non conforme, comme une parcelle peut alimenter plusieurs centaines de produits différents, c'est tous les produits qui seront non conformes. On soutient tout à fait l'objectif du RDUE de lutter contre la déforestation, mais à ce stade, la mise en œuvre du règlement nous pose beaucoup de questions et il reste quelques mois seulement, 12 mois, c'est très rapide. Et donc on a beaucoup d'espoir sur la phase test du système d'information qui va démarrer là, en décembre 2023 et qui pour nous sera crucial pour évaluer si le système est gérable par nos opérateurs avec. La Commission ne semble pas se diriger vers ça, mais nous, on demande absolument un système d'API qui nous permettra de relier ce système au système informatique des entreprises. Et enfin aussi, en guise de conclusion, pour laisser un peu de temps aux questions, contrairement aux autres produits visés par le RDE, les produits bois et dérivés du bois, appliqué déjà donc depuis 2013 le règlement bois de l'Union européenne qui était beaucoup plus simple à mettre en œuvre puisque le produit devrait démontrer sa conformité une seule fois lors de son entrée au sein de l'Union européenne et on n'était pas obligé de garder enfin de mettre à jour des DDR à chaque étape de transformation. Et il nous semble qu'il aurait été plus simple, au moins pour les produits papetiers, de bâtir sur ce règlement RBUE, en améliorant les contrôles, en élargissant donc son scope, que d'embarquer toute l'industrie, dans une surcharge administrative considérable, alors que 95% des papiers et cartons produits en Europe proviennent de bois qui sont européens. Il me semble que ça aurait été plus simple d'aller dans ce sens-là. Mais bon, on verra ce que donne la phase de test du système d'information.
Merci beaucoup, Bénédicte, pour ce témoignage. Alors, ce qu'on peut dire quand même, c'est que vous travaillez en lien avec les autorités, hein, sur, si je
Tout
me
à
trompe
fait,
bien,
ouais. Oui.
L'accompagnement, et donc il y a des groupes de travail, hein.
Voilà, il y a des groupes de travail au niveau français sur ce sujet-là, et on est également en lien avec notre fédération européenne et on participe aux travaux de la plateforme. On fait également passer ces messages.
Voilà. Et donc il faut espérer en effet que l'année qui reste avant la date de mise en œuvre permettent de lever un certain nombre des difficultés que tu as exprimées. Juste parce qu'on va peut-être prendre une ou deux questions dans le chat. C'est vrai que le bois avait notamment été concerné par les certifications FSC et PEFC. Quelle est l'utilité aujourd'hui de ces certifications au regard de ce nouveau règlement? Comment est-ce que éventuellement ces certifications peuvent vous simplifier la tâche ou pas? Est-ce qu'il y a voilà, des recoupements à faire entre les différents outils?
Alors, ces certifications, en fait, elles sont sur une approche en volume, enfin en mass balance. C'est-à-dire que si on rentre 80% de bois certifié, on aura 80% de papier certifié. Et alors que, enfin, de papier où je vois le commentaire de Bertrand de Marne, c'est pareil pour les produits de l'ameublement, alors que là, on nous demande une traçabilité stricte et donc on peut pas utiliser cette approche FSC, PEFC, qui, alors les deux instances ont prévu de faire évoluer leur référentiel. Donc c'est utile pour une partie de ce qui est demandé dans le RDUE, mais l'approche ne repose pas sur une traçabilité stricte telle qu'elle est demandée dans le RDUE.
D'accord. Donc potentiellement, il faudra que les dispositifs de certification évoluent. En tout cas, ils sont en train de réfléchir à ces évolutions-là pour intégrer ces nouvelles réglementations.
Tout à fait, oui.
Okay. Une autre question concernant les leaflets et plus globalement, j'imagine, les emballages qui accompagnent les produits et qui sont donc pas forcément vendus en tant que tels aux consommateurs, ils seront, j'imagine, concernés par ce règlement.
Peut-être juste donc une information avant de vous répondre spécifiquement sur la question des emballages. La Commission européenne a publié une foire aux questions pour ce règlement déforestation. Le lien a été partagé dans le chat. Il y a beaucoup d'éléments qui sont donnés et cette foire aux questions a vocation à être enrichie au fil des mois et des semaines. Donc il y aura voilà, je vous invite à consulter notre site internet sur lequel on mettra cette foire aux questions. Et justement, dans ce document, il y a un point spécifique sur les emballages qui indique très clairement que si l'emballage est l'objet de la vente, en gros, si une entreprise qui fabrique du carton va vendre ses kilos de carton à une entreprise qui en a besoin pour faire ses emballages, là, cette entreprise-là est soumise au règlement déforestation. En revanche, pour une entreprise qui vend des tablettes de chocolat, elle va les vendre empaquetées dans un carton. La diligence raisonnée devra être faite sur le chocolat, mais pas sur le carton qui sert de contenant.
Parfait. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question concernant les imprimeurs. Comment est-ce qu'ils peuvent prouver leur conformité au règlement et quels sont les types de documents à produire pour aller jusqu'au consommateur final? Donc, ce que je comprends, Bénédicte, c'est que tu attendais beaucoup quand même des outils de plateforme pour permettre cette traçabilité, c'est ça?
Mais en fait, cette traçabilité, l'imprimeur, il devra se connecter au système d'information de la Commission européenne, puisque les produits imprimés sont listés dans l'annexe 1 du règlement. Et le papetier lui fournira la liste des DDR, donc il y en aura beaucoup, qui correspondent aux différentes coupes du papier qui lui aura été vendu.
D'accord. On voit que la mise en œuvre de ce règlement est potentiellement assez complexe. J'essaierai peut-être un petit dernier message à Madame Reboul. Juste pour aussi vous encourager vivement à regarder à la fois le règlement, regarder le lien, le site internet du ministère qu'on vous a mis aussi dans le chat, hein, qui est déforestation.gouv.fr, je crois, ou non, enfin, je vais laisser Madame Reboul préciser le site. Et puis aussi dire qu'il y a un prochain webinaire qui sera organisé le 22 novembre, mais là aussi, je laisse Madame Reboul en parler.
Eh bien, Monsieur Sureau, vous avez tout dit. Je voulais effectivement rappeler le webinaire que nous organisons le 22 novembre à 9h30 sur le règlement. Alors, on reviendra pas sur le détail du règlement et ses grands principes comme j'ai pu le faire en début de webinaire, mais plutôt sur des outils et des méthodologies pour répondre aux obligations. Et effectivement, le lien vers le site du ministère, c'est www.déforestationimportée.écologie.gouv.fr. Il est dans le chat également.
Merci à l'Académie MEDEF pour nous avoir permis d'organiser ce webinaire. Un grand merci et très bon après-midi à vous tous et tous.
C'était un podcast de l'Académie. Nous tenons à remercier les collaborateurs du MEDEF qui ont œuvré à sa réalisation, ainsi que l'ensemble des intervenants. Retrouvez de nombreux autres enregistrements sur le site l'académiemedef.fr. Merci pour votre écoute et votre fidélité.